Bienvenue à 7. Ici, comme dans une majorité de gares, on voit bien que sur les panneaux d'affichage, les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux. Dans le sud-ouest, la Société nationale des chemins de fer français a le projet de raccourcir encore le temps de voyage entre les grandes villes. Depuis 7 ans, un projet de ligne à grande vitesse était à l'étude pour réduire d'une heure les voyages Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. Mais le mois dernier, en mars 2015, une enquête publique a rendu un avis défavorable à ces constructions de lignes rapides. En attendant la ligne à grande vitesse Toulouse-Bordeaux, je vous propose de partir sur l'une des grandes lignes ferroviaires transversales de notre pays. Elle est longue de 474 km d'est en ouest, relie 7 à Bordeaux. La ligne numéro 640 000 de notre réseau ferré national est empruntée tous les jours par des trains intercités, locomotives et wagons à l'ancienne qui mettent plus de 4 heures à vitesse modérée pour passer de la mer Méditerranée à l'Atlantique. Sur les rails défile le temps entre Pays d'Oc et Pays Gascon. Reportage à la rencontre des professionnels de ce train et des passagers, tantôt routiniers, tantôt en promenade. L'histoire du train qui passe d'une mer à l'autre par Clément Guerre.
Bonjour, on peut monter avec vous au moins une ou deux stations, ça vous dérange ? Ouais, génial.
Jean-Louis a 58 ans, il conduit des trains intercités depuis 20 ans, il a le sourire, ce Marseillais est à quelques mois de la retraite. De 7 à Narbonne, nous serons à ses côtés dans la cabine de train.
C'est une locomotive électrique et qui marche sous 1500 volts. Le volant, comme tout le monde l'appelle, s'appelle un cerclo et sert à envoyer de l'intensité dans les moteurs, pour des moteurs de traction pour accélérer. Et toute la partie à droite, il y a la radio Soul Train qui nous permet d'être en communication avec soit d'autres trains ou soit le poste de régulation. Et il y a la partie électrique qui nous permet de contrôler l'indicateur de vitesse. Là, on va me donner le départ. Je suis prêt à partir. Je suis de service et on redémarre. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai 4-0 affiché, c'est-à-dire que je ne peux pas dépasser la vitesse de 30 km/h.
Parce qu'on est en gare, c'est ça?
Voilà, c'est-à-dire non, on a eu un arrêt supérieur à 3 minutes.
C'est quoi la vitesse normale sur un train comme ça?
Le maximum, c'est 160 km/h. Mais après, la ligne, on ne peut pas circuler à 160 tout le long. Alors, il y a des limitations à 150, 140. Là, vous voyez, il y a 60 pour sortir. Il y a marqué 60 zones. Ça, je peux rouler à 60. Et vous allez voir, on va voir un panneau, il y a marqué 120. À partir de là, je dois être à 130. Là, je vois des collègues sur la voie sur la voie d'à côté. Je siffle pour les prévenir. C'est la sécurité, voilà. C'est un métier où maintenant on est tout seul. Depuis les années 80, avant, il y avait un aide-conducteur. Et dans les années 80, ils ont installé la radio Soul Train. Ça fait que la SNCF a estimé qu'on n'avait plus à être à deux, du moment qu'on était relié par radio avec les gares ou avec les postes. C'est un peu dommage parce que sur un parcours qui fait Marseille-Bordeaux, il y a plus de 6 heures de conduite, il y a des moments c'est un peu long quoi, mais bon, c'est comme ça, c'est le progrès quoi.
Et qu'est-ce qu'on fait pendant 6 heures? On regarde le canal là qui est à gauche ou...
Non, on se concentre surtout sur la conduite quand bon, c'est un peu plus tranquille. Oui, effectivement, on a tendance à regarder un peu le paysage, c'est vrai que... Le canal sur la gauche, c'est magnifique, ce qui fait partie de la beauté de la ligne. Disons que de Marseille à Narbonne, il y a un paysage. De Narbonne à Toulouse, il y en a un autre. De Toulouse à Bordeaux, il y en a un autre, effectivement. Heureusement que ça rend la monotonie, quoi, hein, parce qu'on a toujours quelque chose à découvrir. Quoi. Mais je suis rentré à la SNCF relativement jeune, je suis rentré à 15 ans comme apprenti. J'ai travaillé à la maintenance du matériel remorqué marchandises, matériel remorqué voyageurs, sur les locomotives, mais après j'avais fait le tour et j'ai dit pourquoi pas, donc je suis monté à la route un peu plus tard et je regrette pas, j'apprécie d'autant plus que j'ai fait autre chose avant. Et le métier, c'est un métier où il faut quand même un minimum d'envie de le faire. Vous êtes seul, on a des horaires, c'est même pas décalé, c'est n'importe quoi, donc il faut quand même un minimum de de plaisir. Sinon, c'est pas la peine, on peut pas tenir.
Est-ce que conduire un TGV, ce serait changer de métier en fait, hein?
Non, c'est l'évolution. Normalement, c'est l'évolution normale, mais ça fait une pyramide, si vous voulez. En haut de la pyramide, il y a les conducteurs de TGV et en bas, il y a tous ceux qui attendent. Parce que ça se fait en fonction de l'ancienneté. Et étant donné que maintenant, les gens partent à la retraite de plus en plus tard, donc ça bloque. Donc, en l'occurrence, quelqu'un comme moi, je n'irai pas au TGV. Parce que là, je vais partir à la retraite en fin d'année. Tapis, c'est pas une fin en soi, quoi. Ça aurait été bien, mais bon, c'est pas grave. Quand je suis à l'entrée de la gare, j'adapte ma vitesse pour m'arrêter exactement là où il faut. Il y a des pancartes. Donc je vais aller jusqu'à la pancarte 7V, ça veut dire 7 voitures. Voilà.
À mon lieu de travail à Castelnaudary. Là, on est à Narbonne. On quitte Narbonne. Je vais devoir changer de train à Carcassonne. Voilà, j'ai passé un bon week-end ici. Là, je vais travailler.
Voiture 8, place 52. Dominique a 48 ans. Ce grand gaillard est un habitué de la ligne.
Ma famille est à Narbonne. Voilà. Donc, ma compagne et mes enfants sont à Narbonne et moi, je fais les trajets tous les jours. Ça se gère, hein. Voilà. C'est une heure de trajet, ça... Moi, je trouve qu'un train, justement, l'intérêt, c'est qu'on peut, on peut travailler, on peut lire, c'est l'avantage du train. Si je le faisais en voiture, je crois que j'aurais beaucoup de mal, ouais. C'est une des rares lignes que la SNCF maintienne, hein, puisque les transversales, là, ont tendance à être supprimées par la SNCF.
Qu'est-ce que vous faites comme métier, là, je vous vois, qu'est-ce que vous faites?
Là, je suis prof. Voilà, un lycée professionnel à Castelnaudary.
Prof de quoi?
Français, histoire, géographie.
Et là, vous corrigez des copies, en fait.
Voilà. Je finis mon travail. Voilà. Le train, c'est mon bureau.
Vous êtes sévère comme prof, vous êtes comment?
Non, trop gentil. Trop gentil. Mais en vieillissant, on s'aigrit aussi. Des fois, on laisse moins passer des trucs, hein, c'est sûr. Non, je suis trop gentil.
Ça fait combien de temps que vous êtes dans ce lycée?
Ben depuis 2001. J'ai commencé en Lozère. Après, j'ai fait des remplacements dans le secteur, là, entre Carcassonne, Limoux, Castelnaudary. Et après, j'ai eu un poste à Castelnaudary. Castelnaudary, il y a 10 000 habitants. C'est triste. Comme ça, quand on arrive, c'est un peu déprimant. C'est sinistré, là. Il y a eu l'affaire du cheval, là, dans la viande. Alors, c'est une ville très marquée par le chômage. Il y a beaucoup d'emplois qui ont disparu là, ces dernières années. Le textile a disparu. Il y avait une petite industrie textile qui a fermé. Là, tout ce qui est conserverie, c'est en difficulté. Donc c'est très âgé aussi, beaucoup de personnes âgées. Donc c'est pas très rigolo, quoi. Moi, j'aimerais pas y vivre, en fait. Voilà.
Les paysages là entre Carcassonne et Narbonne, c'est quoi en fait?
Alors c'est beaucoup de vignes au début. Voilà, au début on traverse des paysages de vignobles. Et après Carcassonne, on est plus dans un. Il y a moins de vignes. La vigne laisse la place aux céréales. Mais on est toujours dans une plaine qui sépare en fait les corbières là, du massif central. Donc c'est. On est entouré de montagnes, mais un peu éloigné. Ce qui marque là le paysage, c'est les petits villages comme ça, là, un peu partout. La Garrigue, voilà, ces paysages-là, de ces petites montagnes couvertes de chênes, de pins ou de buissons. Après, on longe une petite montagne. Ici, les gens ils disent que c'est la frontière climatique. Après, en allant vers Narbonne, c'est le climat méditerranéen. Avant, c'est plus le climat toulousain.
Bonjour. on passe du Languedoc ou du Midi-Pyrénées, ça on s'appelle Midi-Pyrénées pour l'instant, vers l'Aquitaine. Et quand on regarde même l'architecture des gares, on voit une différence entre des gares qui sont côté Aquitaine et des gares qui sont côté Méditerranée. Donc les concepteurs ont voulu marquer ce passage de l'Atlantique à la Méditerranée qu'apportait cette ligne de Bordeaux à Toulouse et à Sète.
Sur les quais de la gare de Toulouse, on retrouve Patrick Castan, désormais à la retraite. Il a passé toute sa carrière à la SNCF. Et il y a quelques années, avant de piloter un grand projet de train, il s'est plongé pendant un an dans l'histoire et les archives de la ligne Bordeaux-Sète.
Le chemin de fer a eu l'autorisation de s'installer très proche, de façon très proche de la vie humaine, dans des conditions qu'aujourd'hui sont inacceptables. Mais donc on a eu aussi cette qualité de paysage quand on passe... Quand on passe en train, on voit des choses magnifiques qu'on ne voit plus quand on circule sur des lignes nouvelles qui sont un petit peu comme des autoroutes. Vous circulez sur une autoroute, n'importe quelle autoroute ressemble à une autre. Vous avez des arbres à droite, des arbres à gauche, point final. Il y a beaucoup d'endroits où on longe le canal, là où c'est en ligne droite.
Et du coup, en fait, on transportait les marchandises sur le canal, c'est ça ou...
Alors l'idée, c'était d'aller plus vite en transportant sur le canal, plutôt que sur la Garonne, qui n'était pas toujours navigable, et plutôt que sur les sentiers où les moyens de transport, c'était le cheval, quoi. Et donc on n'allait pas très vite, ni très loin. On est dans les années 1870, 1880, 90, et donc le chemin de fer, à cette époque-là, c'était une révolution en termes de vitesse, parce qu'on roulait à 40 à l'heure de moyenne, ça commence à faire des choses impressionnantes par rapport au cheval. Pour le canal, ça a été le début et la fin, quoi. C'est-à-dire que dès que le chemin de fer a été fini, la marchandise a préféré prendre le chemin de fer, parce que ça allait plus vite et dans des conditions économiques satisfaisantes. Et puis il y avait une très grosse promotion aussi, par rapport au fait qu'il y avait un réseau qui permettait de se déplacer jusqu'à Paris, et donc d'amener des productions agricoles ou viticoles vers la capitale. C'était un argument de développement de l'activité économique locale.
Et parce qu'à l'époque, on fait le chemin de fer plus pour les gens ou plus pour les marchandises ?
On le fait plutôt pour les voyageurs, parce que le chemin de fer était vu comme un progrès social. C'était un support du développement des communications. Alors les gares, il y avait déjà beaucoup de gares entre Bordeaux et Langon. On les reconnaît bien parce qu'elles sont à peu près toutes identiques, de Bordeaux jusqu'à Toulouse. C'est le même architecte qui a fait les dessins de toutes, donc on les reconnaît. Seules les grandes gares ont une allure plus noble, si j'ose dire, mais toutes les autres gares sont stéréotypées, quoi. Donc on les reconnaît très bien.
Et donc il y en a combien à peu près, vous savez entre...
Alors il y en a plus de 50. Oui, plus de 50 sur 250 km, ça fait à peu près une tous les 5 km. Ce qui est énorme, hein. Pour faire du chemin de fer, aujourd'hui on n'imagine pas s'arrêter tous les 5 km. La tendance globale, c'est de faire des trajets un peu plus longs qu'on le faisait dans le passé. Donc on n'a plus une gare tous les 5 km, mais on a des dessertes qui sont relativement espacées. Et si vous prenez les trains, même les TER, entre Bordeaux et Agen ou entre Agen et Toulouse, vous n'arrêtez pas comme on s'arrêtait avant. Dans toutes les gares. Et les trains, il y a beaucoup de trains qui ne s'arrêtent que à Montauban et à Agen. Il y en a même certains qui ne s'arrêtent ni à Montauban ni à Agen. Donc il y a une tendance à vouloir gagner du temps par la suppression d'arrêts. Et il y a aussi une tendance du voyageur à utiliser d'autres moyens de transport pour faire des trajets de petite distance. Bon, après, avec la vulgarisation de l'automobile, les conditions de transport ont changé. Et donc le moyen de transport automobile est venu concurrencer très sérieusement le train sur des trajets de courte distance.
On vient de partir de Toulouse, il y a quelques minutes.
Voiture 14, place 13, Nadine a 56 ans, elle porte un sac à dos et un chapeau de paille.
Moi je vais à Agen en fait, et après je prendrai le bus, je vais à Condon.
Vous allez faire quoi ?
Ah, je vais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, je vais être hospitalière pendant 15 jours. C'est les gens qui accueillent les pèlerins qui passent, enfin, qui font le ménage, qui font les repas, qui font visiter, et qui font en sorte que leur séjour se passe bien. Je suis enseignante en fait, mais cette année je suis à mi-temps annualisée, donc là je suis en vacances. Et l'année dernière en fait, en marchant sur le chemin, je me suis arrêtée à cet endroit-là une fois et ça m'a beaucoup plu, voilà. C'est un chemin où chacun fait son chemin personnel en marchant, finalement, qu'on soit religieux ou pas. Enfin, moi, je le suis en partie, on va dire. Mais ben, en marchant, je me cherche aussi.
C'est parfois ou c'est par
curiosité, c'est pourquoi ?
C'est un mélange de tout ça, en fait. C'est dans le monde d'aujourd'hui, ça prendre le temps de marcher, en fait. Prendre le temps de faire des choses, de ne pas être contraint par tout ce qui nous entoure habituellement, courir tous les jours.
Et donc j'imagine que ce train qui met 6 heures ou presque pour aller, genre, ça vous dérange pas, vous avez le temps, vous?
Bah là aujourd'hui j'ai le temps, j'avoue que de toute façon j'ai pas le choix, il n'y a pas de train plus rapide alors. Et voilà, bah, d'habitude je prends, si j'ai le choix je prends l'avion, mais là c'est un peu trop cher.
Ah. Mais si je comprends bien, en fait là vous avez 6 mois de vacances.
Oui c'est ça.
Et qu'est-ce qu'on fait pendant 6 mois de vacances?
Et ben on essaye de faire des choses qu'on fait pas le restant de l'année, en fait, qu'on fait pas quand on est à l'école et qu'on n'a pas le temps de penser. Donc là en fait c'est un moyen de décompresser, de penser à autre chose. Bah, la ligne en fait elle suit la ligne de d'autoroute. Par contre ce trajet je le connais très bien en voiture. Et elle suit un peu, bah, elle passe en fait d'une mer à l'autre quoi. Je trouve ça assez sympa de se dire qu'on part pour aller comme ça vers l'autre mer. J'aime bien. Et le train, bon, il est confortable quand même. C'est pas un TGV, mais presque il est plus sympa que le TGV, je trouve, hein, à l'intérieur.
Et là, donc dans, je sais pas, une demi-heure, je crois qu'on arrive à Agen.
Bah ensuite, je vais sûrement chercher un petit endroit pour une petite collation parce que le bus ne partira qu'une heure après. Voilà. J'aurai pas forcément le temps de me promener parce que c'est un peu court, hein. Il n'y a que 3 quarts d'heure, mais enfin, ceci dit, Agen, c'est une petite ville sympathique, c'est une petite ville de province sympa quoi, tranquille, jolie.
Et ensuite vous prenez le bus jusqu'à où?
Condon, c'est une ligne régulière en fait.
Il n'y a pas de train?
Non, bah, vous savez maintenant il y a de moins en moins de petits trains, hein, de petites lignes, ils suppriment les petites lignes, c'est pas rentable.
Mais justement, peut-être que cette ligne, un jour, elle sera supprimée pour une ligne à grande vitesse.
Ah bon? Vous croyez? Je pense que le train, que ce soit celui-là ou un train à grande vitesse, ce ne serait pas plus désagréable. Et c'est vrai que ça manque un peu quand même, hein, Marseille-Bordeaux. Faut avoir envie quand même, hein, pour faire, je sais pas, 7 heures de train, c'est ça?
Vous avez fait quoi pendant 7 heures là, avant que je vienne vous déranger?
J'ai un peu dormi parce que j'étais fatiguée et puis j'ai lu. Moi j'adore lire donc ça me dérange pas.
Vous lisez quoi là?
Médecin du ciel, histoire d'une dame en fait qui est partie en Australie et pour qui est un médecin en fait, la seule possibilité dans les terres intérieures c'était d'avoir des avions. Donc ça raconte cette histoire là en fait.
C'est une histoire de voyage.
Oui c'est ça.
Vous aimez bien les voyages?
Oui, tout à fait. Je regrette de ne pas en avoir fait assez.
Et là, vous considérez que c'est un voyage ou c'est autre chose?
Oui, si, c'est un voyage quand même. Bah, l'aspect plus lent qu'un TGV, ça donne un peu plus l'impression de voyage. Le TGV, bon, on va vite d'un point à un autre, en fait. Voilà. Mais bon, c'est parce que j'ai mon temps, je veux dire. Mais je reconnais qu'en temps normal, si j'étais pressée, je trouverais ça long.
Bon, bah, bon voyage.
Merci.
Monsieur, dame, bonjour, je vais valider vos titres de transport.
Dans le train intercité, c'est quoi le travail de contrôleur?
C'est le confort voyageur, vérifier le chauffage, la climatisation, l'éclairage, les demandes des voyageurs, et puis voilà.
Les renseignements sur
les
horaires.
Voilà, je vais te le dire.
Le couple Jean-Michel et Sylvie sont au contrôle depuis 31 ans dans les trains intercités au départ de Bordeaux. Et dès qu'ils le peuvent, ils travaillent ensemble comme aujourd'hui.
Sur un intercité, oui, sur un intercité entre Bordeaux et Marseille, on est toujours deux. Parce que bon, souvent, il y a quand même beaucoup de clients à gérer. Il y a 7 ou 14 voitures selon les cas. Là, on en a 7, donc c'est plus facilement gérable que 14, bien sûr. Et donc, on s'occupe des voyageurs, de la sécurité, comme disait mon collègue, et voilà, tout ce que nous demandent les clients, et y compris, évidemment, lutter contre la fraude, qui, quand même, voilà, est un gros problème, voilà, incontournable. Les agents de train, on est affectés à des journées particulières. On dort dans un endroit, et on refait le train le lendemain. Bon, c'est un petit peu une vie de nomade, quand même. Il faut s'adapter, c'est un peu spécial. Voilà, on fait d'abord la ligne. Par exemple, là, hier, on est parti de Bordeaux. Vers quelle heure on est parti? Allez.
Hier, 9h. 9h.
On est arrivé à Marseille à 15h30, à peu près 15h40. On en est reparti ce matin. Et on finit donc à l'arrivée, voilà. Et pendant tout ce temps, voilà, on dort à Marseille. Cette ligne, oui, c'est vrai qu'elle est très jolie. Ça évolue du sud-ouest jusqu'au sud-sud, c'est très joli. Après, on arrive à Marseille, on voit la mer, c'est fabuleux. On voit une partie de la Côte Bleue.
C'est vallonné, enfin, il y a plein de... C'est diversifié. Il y a quelques beaux châteaux, des châteaux cathares un peu plus haut.
On a le
château cathares.
On voit pas tout,
mais... Au départ, les trains passaient toujours au centre des villes. Maintenant, les grandes lignes, c'est différent. Enfin, les TGV, ils passent là où ils peuvent réunir le maximum de personnes.
Ah oui, oui. Non, mais c'est vrai aussi que la vitesse du train, qui est quand même limitée, permet de plus apprécier le paysage. C'est vrai qu'un TGV, sur une LGV à fond, bon, on profite de rien. On gagne du temps, c'est que du temps qu'on gagne. Voilà. Là, on est encore dans l'ancien modèle avec le côté... on profite. Heureusement qu'on profite, parce que sur 6 heures de train, les gens en auraient ras-le-bol. Et puis, je vous dis, chaque fois qu'on passe à 7 sur la ligne, tout le monde s'arrête pour regarder. Ça fait 15 000 fois qu'on passe à 7 et on s'arrête toujours pour regarder le paysage, parce que c'est toujours magique, c'est toujours joli. C'est vrai que c'est bien. Voilà. Et puis le canal du Midi, c'est quand même super beau aussi. Hein. Ça, c'est... Alors après, il y a ceux qui sont blasés et ceux qui... Voilà. Je ne fais pas encore partie des blasés.
On arrive où, là ?
Agen.
Oui.
Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, notre train intercité arrivera en gare d'Agen. Prochaine gare d'arrêt Agen. Avant de descendre, assurez-vous de ne rien laisser dans les voitures. Dans la SNCF et de l'équipe intercité, je vous souhaite une bonne journée. Agen. Voilà.
C'est donc vous la voix qui a...
Qui donne envie de voyager, c'est moi.
La grande voix sensuelle
ben, C'est moi. C'est lui. Alors bon, je ne fais pas trop souvent parce qu'autrement, il y a une émeute.
Lors d'un arrêt de train, donc, alors, le contrôleur fait une annonce en disant qu'on va arriver dans telle gare. Le contrôleur descend et sur la gare, dans la gare, il y a un chef de service. Ce sont les gens qui ont des casquettes blanches qui, eux, vont ensuite donner l'ordre à mon collègue de fermer les portes. Lequel va fermer les portes et ensuite, ce chef de service donnera l'ordre de départ au mécanicien qui se trouve, enfin, le conducteur qui se trouve évidemment dans sa machine qui décolle juste après.
Le métier de contrôleur, c'est quand même...
C'est beaucoup plus la sécurité que le contrôle en soi. Il faut vraiment s'occuper des gens. On prend en charge des gens du point A au point B. Alors du point A au point B, il faut que ça se passe bien. Et en plus, il faudrait que les gens soient contents d'être là. Voilà.
Vous êtes arrivé à Bordeaux-Saint-Jean, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le...
Patrick Castin, on est arrivé à la gare de Bordeaux avec le train Intercité. Vous pilotez, vous, depuis 7 ans, le projet ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse. Comment ce projet est-il réalisable ?
La ligne à grande vitesse se raccorde au réseau existant, aux entrées de Bordeaux et aux entrées de Toulouse. Parce que dans ces secteurs-là, c'est plus simple de faire des élargissements. En fait, c'est plus simple, il n'y a pas vraiment d'autre solution quoi, que de faire des élargissements de voies existantes. Ensuite, donc, il reste 220 km de ligne nouvelle à faire sur les 250 pour faire la grande vitesse entre les deux villes. Le budget de cette opération, Bordeaux-Toulouse, si on prend Bordeaux-Toulouse tout seul, c'est de l'ordre de 6 milliards d'euros. Donc ça commence à faire des sommes très importantes et qui posent forcément un problème de financement. Ce qui fait que par rapport à la date de réalisation, que l'on estime aujourd'hui à 2024, il y a la contrainte du financement qui va être le point dur de la mise en service du projet. Puisque sur l'aspect environnemental, sur l'aspect insertion humaine, on a convaincu les territoires traversés que c'était la meilleure solution. Quand je dis qu'on a convaincu, il reste quand même des gens qui sont convaincus du contraire, c'est-à-dire que c'est pas la peine de le faire et qu'il suffit d'aménager la ligne existante pour améliorer le réseau ferroviaire. Donc ça, c'est une fausse réalité, c'est une fausse bonne idée parce que améliorer l'existante, oui, on peut toujours le faire, c'est ce qu'on fait au demeurant régulièrement, mais il y a des limites, et au final, ce qu'on peut faire en amélioration de la ligne existante n'apporte pas un gain de temps de trajet significatif qui permettrait de capter de la clientèle. Parce que si on apporte des améliorations de quelques minutes et qu'on ne capte pas la clientèle, ben on a dépensé de l'argent, oui, mais on peut se poser la question, est-ce que j'ai bien fait de dépenser cet argent, est-ce que j'aurais pas mieux fait de rien faire ? En fait, la concurrence que l'on va faire en faisant un projet nouveau, c'est la concurrence avec l'aéroport de Toulouse. Parce que l'aéroport de Toulouse, c'est beaucoup de liaisons Paris-Toulouse. Et avec la ligne nouvelle, on sera dans des temps de trajet qui seront comparables. Donc on captera beaucoup de trajets aériens. On induira aussi du trafic nouveau, c'est-à-dire des gens qui se déplacent parce que c'est pas très loin pour aller à Bordeaux, alors qu'avant ils ne le faisaient pas parce que c'était trop loin. Et puis on a du report, bien sûr, qui se fera de la ligne classique. C'est-à-dire que la ligne classique restera utilisée pour les TER, alors que tous les trajets rapides auront envie de passer par la grande vitesse pour gagner du temps, tout simplement. Même si le coût de transport est un peu plus élevé, le temps de trajet reste un élément très important pour le voyageur.